Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour et bienvenue à l'écoute de cette 65e émission de Complètement à l'Ouest. Et pour l'émission de ce jour, nous allons nous projeter, voyager vers le futur proche et non pas en nous inspirant de l'œuvre de Jules Verne, mais à partir d'une prévision, certes peu réjouissante, mais à laquelle nous devons nous résoudre, car nous le savons, c'est désormais une certitude, les années qui viennent seront chaudes, très chaudes même. À l'horizon 2049, c'est dans 23 ans, la vie des humains que nous sommes risque de singulièrement se compliquer du fait d'une planète qui n'en finit pas de se réchauffer. Nous le savons déjà, pour l'expérimenter de plus en plus souvent, le thermomètre risque de continuer à s'affoler, plus 2 degrés, en 2049, probablement 3,5 degrés en plus en 2100, et même si nous ne serons plus là pour le voir, possiblement plus 5 degrés en 2150. Car quoi qu'en disent les climato-sceptiques, la Terre se réchauffe, et avec ce phénomène que l'on n'arrive pas à endiguer, de nombreuses autres plaies, fatalités, pourraient bien aussi s'abattre sur nous. Dit autrement, la maison brûle et nous regardons ailleurs, selon les propos de Jacques Chirac, il y a maintenant 24 ans, à Johannesburg. Désolé de plomber un petit peu l'ambiance, mais soyons lucides et surtout, écoutons ceux qui savent car, et supposons-le, il n'est jamais trop tard pour agir. Inspirons-nous de l'aphorisme du philosophe Blaise Pascal qui avait écrit que le pessimisme est affaire d'humeur alors que l'optimisme est affaire de volonté. C'est parti pour cette 65e émission. Larguons les amarres et voguons cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Nathanaël Wallenshorst.
Bonjour Philippe Boyer.
Bienvenue au micro de Complètement à l'ouest. Merci. Pour vous présenter. Vous êtes chercheur en sciences de l'environnement, par ailleurs enseignant, membre de l'Anthropocène Working Group, AWG. Il faudra bien sûr que vous nous expliquiez ce qu'est l'Anthropocène. Je n'oublie pas de dire que vous êtes également universitaire, chercheur, auteur de nombreux livres, parmi lesquels Accélérons la résonance pour une éducation en anthropocène, justement, La vérité sur l'anthropocène, Qui sauvera la planète, un autre de vos ouvrages, et bien sûr, 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, paru au Seuil, votre dernier ouvrage publié il y a quelques mois et qui va bien sûr être au centre de l'entretien de ce jour. Mais avant que nous parlions environnement, réchauffement climatique, avant que nous évoquions ces points de bascule climatique qui nous feront passer d'un côté ou de l'autre, c'est la thèse de votre livre, je vous propose, et en guise de prélude, que nous écoutions trois courts extraits sonores en guise de rampe de lancement à cet entretien. C'est parti.
Et de ce fait, précisément, pour tenir mon engagement, pour remplir mon mandat de protéger ce pays et ses habitants, les États-Unis se retireront de l'accord climat de Paris.
Thank you.
Merci.
Thank you. But begin negotiations to re-enter.
Mais nous ouvrirons des négociations pour rejoindre l'accord de Paris ou alors mettre en place de nouvelles transactions dans des conditions et modalités qui seront justes et équitables envers les États-Unis, les entreprises, leurs ouvriers, leurs habitants et leurs contribuables. Donc nous sortons, mais nous reprendrons les négociations.
Un présentateur météo victime d'une vague de harcèlement, de haine, pour avoir simplement informé sur la canicule à venir.
Oui, Guillaume Séchet, qui est passionné de météo, toujours bien informé sur le sujet, qui nous informe beaucoup, et il a comme nombre de ses collègues diffusé une carte comme celle-ci, vous voyez, qui montre les températures qui nous attendent sans doute d'ici la fin de la semaine, qui est en blanc, c'est très chaud, 37 degrés attendus dans le sud-ouest, et sans doute autant d'ailleurs pour la moitié nord la semaine prochaine. Guillaume Séchet a bien précisé qu'il s'agissait là de prévisions assez lointaines, avec des précautions de rigueur, mais il s'est fait insulter par des climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, accusés d'être anxiogène, de propagande sur le climat, au point où il a préféré retirer son message. Il ne veut plus s'exprimer, mais comme lui, le journaliste météo-climat de France 2, Sébastien Thomas, décrit des tensions de plus en plus fortes sur les réseaux sociaux.
Nous n'inverserons pas les choses, mais nous devons faire en sorte de ne pas les accélérer. Encore une fois, aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe. Alors on peut pas partir sur la pointe des pieds en disant « Ouh, je savais pas !» et léguer à nos enfants une planète infernale. Je mon épouse, l'association Longitude 180, nous engageons parce que nous savons et que nous avons le devoir et l'amour de nos enfants, le devoir de faire quelque chose. Oui, nous pouvons changer notre consommation. Oui, dans le livre écrit par mon épouse « Sauvons l'océan » aux éditions Vagnon, eh bien, elle donne des tas de petites recettes pour faire quelque chose et s'engager sur la bonne voie.
Alors, dans l'ordre, nous avons eu Donald Trump, c'était en 2020, annonçant, on l'a compris, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ensuite, cette information qui date de l'été dernier, où un présentateur météo a été obligé de retirer ses prévisions car harcelé par des climato-sceptiques. Et enfin, les auditeurs fidèles de Complètement à l'Ouest ont peut-être reconnu le grand océanographe François Sarano, que j'avais eu le plaisir d'accueillir à ce micro, c'était au mois de juin dernier, 2025. Et je rappelle que l'émission est bien sûr disponible à l'écoute sur le site de Radio Imo, ainsi que sur les principaux lecteurs de podcasts. Nathalie Wallenhorst, cette toute première question en lien avec la phrase de François Sarano, l'océanographe que je citais à l'instant, que nous venons d'entendre, nous n'inverserons pas les choses, il parlait du réchauffement climatique, mais nous devons faire en sorte de ne pas les accélérer. En lisant votre livre 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, êtes-vous sur la même longueur d'onde que l'océanographe François Sarano? Et puis, question complémentaire, est-ce que vous êtes globalement inquiet du backlash écologique que l'on voit poindre évidemment à nouveau depuis la réélection de Trump et qui, d'une manière ou d'une autre, se propage aussi un petit peu en Europe?
Bon, un grand merci pour ces différents extraits. Puis effectivement, là, pour cette question, nous n'inverserons pas les choses. C'est pas exactement comme ça que je dirais les choses. Dans le « nous n'inverserons pas les choses », il y a un rapport un tout petit peu déterministe, on va dire, avec l'avenir, à l'avenir. Évidemment, François Sarano, il dit ça avec à l'appui un ensemble de savoirs biogéophysiques, c'est-à-dire c'est sa lecture scientifique du contexte qui lui fait dire ça. Et donc, moi, de fait, je passe mes journées immergé dans une littérature scientifique biogéophysique pour comprendre le système Terre, sa trajectoire, etc. Et la trajectoire sur laquelle on est, elle est engagée de façon vraiment puissante, avec un ensemble d'effets d'emballement, possiblement d'effets dominos, de bascules en cascade qui peuvent être devant nous. Et donc, si on regarde les choses du point de vue de la trajectoire, si on n'infléchit pas la trajectoire, effectivement, ce qui se passe devant nous, ce qui est devant nous, et on en dira un tout petit mot peut-être pour comprendre, mais c'est un chaos civilisationnel. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Si je devais faire cash, on a une chance sur une de pulvériser nos sociétés si on reste sur la même trajectoire climatique. Et moi, c'est à cet endroit-là, je dirais que je dirais pas exactement la même chose. Pour moi, tout est dans le si. Et la seule chose qui a du sens pour moi, qui me mobilise, c'est de tout faire pour nous détourner de cette trajectoire, pour parvenir à contenir l'emballement du système Terre, pour pérenniser la vie en société. Alors évidemment, on ne va pas revenir aux conditions climatiques qui ont prévalu ces derniers millénaires, qui sont ceux de l'Holocène, depuis 11 700 ans. L'Holocène, c'est une époque géologique qui a commencé il y a 11 700 ans, qui est prise dans un mouvement de bascule entre des époques glaciaires longues et puis interglaciaires plutôt courtes. Et là, on a eu affaire à un interglaciaire stable et prévisible. Ce qui fait que les expérimentations agricoles qu'on a lancées, elles ont prise. Et à partir de là, on a maîtrisé les écosystèmes, on a dégagé des excédents agricoles et on les a dealés. Et ce qui fait qu'on est là tranquillement en train d'échanger. Enfin, pour ma part, j'ai pris un bon et gros petit-déj ce matin. Et s'il n'y avait rien eu à manger au petit-déj, je vous aurais envoyé un texto, Philippe, en disant « Désolé, là, je suis passé en mode chasseur-cueilleur, je suis à la recherche d'un tacos ou de n'importe quoi pour grailler, pour me mettre quelque chose sous la dent. » Et c'est pour dire que la pensée même procède d'une maîtrise des écosystèmes, d'une capacité de maîtrise des écosystèmes. Et là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est sorti, ça c'est net, des fourchettes de variabilité climatique de l'Holocène. C'est-à-dire, depuis 11 700 ans, on est en moyenne annuelle dans un plus ou moins 1 degré. Et là, on est sorti de ce plus 1 degré. On est on est à plus 1,2. On a un horizon de 1,5 dans les années qui viennent. Vous l'avez dit, de 2 degrés 2050, etc. Et donc, oui, ce serait illusoire que de dire on va revenir aux conditions qui ont prévalu ces derniers millénaires. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est absolument juste, vital, c'est de contenir l'emballement et que nos actions, est une force tellurique. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention de pas trop s'en laisser compter avec des politiques de transition, de croissance verte, de RSE, de développement durable, ou de faire un câlin aux arbres, ou des bisous aux pissenlits, ou bref, j'en sais rien. Tout un tas de choses qui sont, ok, nécessaires, mais qui n'ont pas une force tellurique. Et ça, il faut juste qu'on le sache, il faut juste qu'on se le dise, en disant, bah voilà, on fait ce qu'on peut à cet endroit, on décarbone tel secteur d'activité, ou je sais pas quoi, mais on sait bien que ça n'impacte pas fondamentalement la trajectoire du système Terre. Et peut-être, je veux bien juste dire un tout petit mot pour dire, mais bon sang,
un mot également sur le backlash que j'évoquais quand même. J'imagine connaître votre réponse.
Bien sûr. Parce que le truc, c'est de se dire, mais bon sang, pourquoi c'est si important? Parce que, à la limite, on est à 1,2, à 1,5, ou à 2 degrés, moi j'aurais fait la même en venant en short, et puis ça le faisait, quoi. Enfin, voilà, quel est le problème? Et puis là, en ce moment, il y a différentes informations, aussi des informations gouvernementales qui disent, en fait, on pourrait avoir le climat de Rome à Lille en 2100. Moi, je veux dire, c'est plutôt sympa, en fait. Pour l'instant, à Lille, on fait du cidre avec des pommes, et après, on inventera le cidre avec des cocotiers, ou je sais pas quoi, enfin bref, voilà. Mais non, parce que ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique n'est pas une translation climatique géographique du sud vers le nord. Ça c'est une interprétation complètement erronée de ce qu'est le réchauffement du climat. C'est une déflagration.
C'est-à-dire, en fait, on
est en train de fragiliser tous les points d'accroche, d'épanglage de nos sociétés sur le système Terre. Voilà. Et alors, du coup, je suis parti en version longue, je serai très vigilant pour la suite. Par rapport à la question du backlash, de fait, c'est assez hallucinant.
Donc, rappelons que c'est un coup de frein aux mesures écologiques. On a entendu Trump, il y en a évidemment d'autres, sur le fait de freiner un certain nombre de choses, d'initiatives.
Et donc, de fait, il y a ce qui vient outre-Atlantique, et puis il y a de plus en plus un contexte, on va dire, plutôt morose, en fait, au niveau français, européen, etc. C'est pas la période où on a le plus un grand moral, et les médias se focalisent, j'ai envie de dire, peut-être sur un espèce de cœur de métier qui est le divertissement davantage que l'information. Et on perd en qualité d'information sur les questions climatiques, etc. À tel point que des éditeurs, des collections qui portent sur les questions climatiques, écologiques, etc. Identifient une baisse des ventes assez drastique de certaines collections parce qu'il n'y a plus les espaces médiatiques pour pouvoir diffuser, proposer cette pensée-là. Donc ouais, c'est un vrai problème.
Allez, on est là pour donner de la bonne et de la vraie information grâce à vous, Nathanaël Valenhorst. On a dû vous poser 50 fois la question, je la pose une 51e fois. Pourquoi 2049 et pas 2050, 2037? Est-ce que quelque chose de peu agréable est censé nous tomber dessus dans 23 ans lorsque nous serons en 2049?
Donc moi, ça fait des années que je bosse sur ces questions-là, en mode un peu obsessionnel, frénétique, monomaniaque, à essayer de tout comprendre du système Terre et puis des risques que la trajectoire climatique fait peser sur nos sociétés. Et donc du coup, j'ai écrit de façon un peu frénétique. Et là, j'ai envie de dire, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir réussi à transmettre ce que je vois dans ma tête quand je travaille comme chercheur. Régulièrement, des chercheurs, quand ils bossent sur un article, qu'ils lisent un article, etc., ils se disent « Ouh putain, ça va être chaud ». Ouf, ah merde, c'est
dans
pire que ce que
terme.
Je pensais. Ah ouais, chaud dans le sens, mais comment on va faire face à ça? Ça va fragiliser nos sociétés, etc. Et donc, moi, j'ai voulu donner à voir ces différentes choses qu'on peut se dire. Et donc, 2049, c'est l'image du monde à venir si on reste sur notre trajectoire climatique. C'est absolument pas pour se faire peur, machin, etc. J'ai aucun kiff à me faire peur, à faire peur. Moi, j'aime la vitalité, enfin bref. Mais l'idée, c'est simplement avoir les yeux en face des trous pour pouvoir, à partir de là, avoir des critères de jugement de l'action et notamment la composante tellurique évoquée avant. Et donc, 2049, image du monde à venir, ça n'est pas qu'une date. Ce qui va se passer dans 23 ans, je suis pas Madame Irma, fondamentalement, je ne sais pas. Je travaille sur des éléments structurants qui montrent la fragilisation des sociétés. Alors, pourquoi 2049? C'est pour dire aussi, en fait, c'est plus proche de nous que ce qu'on peut croire. On peut le toucher à hauteur d'existence. Et quand on regarde derrière et qu'on fait une analyse rétrospective des études prospectives, de fait, à chaque fois, ce qui advient arrive un peu plus tôt que ce qu'on pensait. Voilà, parce qu'il y a des phénomènes d'emballement du système Terre qui n'étaient pas identifiés jusqu'au bout. On n'avait pas l'ensemble des connaissances pour les identifier, etc. Donc c'est pour dire l'ampleur du risque sur lequel on est assis.
Vous parlez beaucoup dans votre livre de points de bascule climatique. À partir de ces seuils, vous les avez cités, plus 2, plus 3, plus 5 degrés. Est-ce qu'on doit comprendre que même si nos sociétés réagissaient enfin fortement, pour pas dire radicalement, il serait quand même déjà trop tard pour revenir en arrière?
Non. Ça, ouf, faut que ce soit clair. Mais sinon, moi, je sais pas au Club Med ou je sais pas où, enfin, je ferais autre chose.
Non. C'était la réponse que j'attendais.
Non, l'idée est, et en fait, il sera jamais trop tard. C'est-à-dire, parce que, on peut avoir une image pour dire ça. En fait, moi j'adore le handball. Imaginons, on est en match de, plein match de hand. Bon, on est mené au score, on va pas se mentir, de 4-5 buts, il reste 5 minutes. Eh ben, jamais dans toute l'histoire du handball, il y a un type qui est parti prendre sa douche à ce moment-là. C'est le moment où tu te défonces, tu donnes tout ce que t'as. Tu vas pas commencer à dire, ah, le plus probable, c'est qu'on perde, machin. Le coach, il te donne une paire de baffes et puis tu recommences plus jamais ça dans ta vie. Enfin, et même, ça n'arrive même pas, en fait. Donc, alors, l'image du match de handball, elle est comme toute image, elle est un tout petit peu équivoque à un certain endroit. On pourrait dire, bon, bah, d'accord, alors t'es 5 ans, là, d'un point de vue métaphorique, ça signifie combien en année réelle? Admettons que ça veut dire, je sais pas quoi, 23 ans, je sais pas quoi. On verra dans, rendez-vous dans 23 ans. Mais en fait, dans 23 ans, le match sera toujours pas fini. Il sera toujours l'heure de se défoncer pour contenir l'emballement du système Terre. Une grande dame comme Valérie Masson-Delmotte, donc vice-présidente du GIEC, je sais, tout récemment, puis vraiment chercheuse, brillante chercheuse, elle le dit régulièrement. Chaque dixième de degré compte. Une simple étude qui a été réalisée par des chercheurs en santé. Et les chercheurs, ils font ce qu'ils peuvent hein, pour essayer de transmettre aussi quelque chose de l'ordre du risque et puis transmettre le goût pour l'action aussi. Voilà. Ils ont regardé l'écart entre 1,5, un réchauffement climatique de plus 1,5 et plus 2, donc un écart de 0,5. Ça, désolé, les termes ne sont pas les bons, ça économise combien de morts? C'est-à-dire combien de personnes ne meurent pas uniquement sous l'effet de la dégradation de la santé si on contient l'emballement à 1,5 par rapport à 2. C'est 153 millions de personnes sur Terre. Et ça, c'est sans compter sur les événements climatiques extrêmes, sur les inondations, etc., etc., simplement sur les augmentations de cancer, les augmentations de maladies vectorielles, les pathologies mentales, les suicides, l'élargissement du périmètre de maladies, les mutations de virus, les maladies vectorielles, je ne sais plus ce que j'ai dit.
Non, je ne sais plus, on a compris.
Simplement sur la question de la santé. Donc, c'est pour dire, voilà. Une autre étude toute simple, Margot Bador, elle prend la vague de chaleur de 2003,
on va en parler,
vague de chaleur historique. Ouais.
Justement, je rebondis sur vos propos, puisque très vite dans votre livre, vous plantez ce décor que vous décrivez maintenant, notamment à la page 44, en disant, je vous cite, « Dès 2050, nous connaîtrons des étés caniculaires comme celui de 2003 ». Tous les 3 ans. Ça veut dire que l'on devra évidemment se protéger de la chaleur de façon beaucoup plus radicale, car on mourra littéralement de chaud, malheureusement. Je n'oublie pas que nous sommes dans les studios de Radio Imo. Qu'est-ce que ça veut dire pour les villes dans lesquelles l'essentiel des habitants de ces planètes vivent déjà?
Alors, les villes, c'est une sacrée question, parce que de fait, il y a un phénomène d'îlot de chaleur urbain, et quand il y a une vague de chaleur ou un pic caniculaire, on peut avoir jusqu'à plus 5 degrés hein, de chaleur lors du pic caniculaire quand on est en ville. Donc, il y a un enjeu très fort de végétalisation des villes pour créer des îlots de fraîcheur, pour capter un peu, enfin déjà avoir de l'ombre, etc., et puis aussi capter l'humidité. Débétoniser, le béton, le bitume capte la chaleur et puis ensuite la transmettre comme ça la nuit, donc la température ne rebaisse pas.
Végétaliser.
Donc cette dimension-là, elle est évidemment extrêmement importante. On pourrait dire, faut tous partir à la campagne. Mais le truc, c'est pire que tout, parce que ça veut dire que t'anthropises encore plus, avec un A dans le sens, tu marques de ton empreinte des sols, une empreinte urbaine, des sols qui, pour l'instant, peuvent être perméables, peuvent avoir d'autres destinations. Donc, la ville est encore l'endroit où l'empreinte environnementale d'un collectif d'humains est le moins important, quoi. Donc, effectivement, il y a un enjeu à cet endroit-là qui est essentiel.
Vous écrivez aussi dans votre livre, et si on prend un peu de hauteur, que évidemment ces effets de chaleur vont modifier, on l'a bien compris, la société, radicalement, profondément. Est-ce que ce dérèglement climatique pourrait nous faire entrer dans un âge où finalement nous serions contraints d'une certaine manière de voir des régimes autoritaires qui prendraient des décisions par rapport à un environnement naturel extrêmement dégradé? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que vous l'envisagez?
Alors, donc moi, je refuse de l'envisager. C'est aussi simple comme ça. De même que je refuse d'envisager la défaite, et la défaite dans le sens de contenir l'emballement du système Terre, je refuse d'envisager à un moment donné le fait d'abdiquer de nos libertés publiques au bénéfice de quelques-uns supposément éclairés qui prendraient en charge le devenir de l'humanité dans le cadre d'un régime autoritaire. Effectivement, quand on parle de ces questions-là en cours avec des étudiants, assez vite, t'en as un qui connecte dans sa tête et qui se dit ben, « En fait, c'est nos démocraties libérales qui nous ont mis dedans. Hey, monsieur, est-ce qu'il ne faudrait pas une petite dictature verte à la chinoise, quoi ?» Et puis direct, t'en as un de l'autre côté de l'amphi qui dit « Bon, plutôt une insurrection, révolution, on va tout faire péter, puis ça, voilà. » Dans les deux cas, c'est la violence, en fait, comme moyen légitime de l'action. Moi, à cet endroit-là, je me situe comme éducateur, et fondamentalement comme enseignant-chercheur, mais qui fait partie de cette grande famille des éducateurs. Et comme éducateur, ben, je refuse la violence. C'est-à-dire, un éducateur ne peut pas appeler à la violence. L'endroit où, à un moment donné, la mission la plus aboutie, j'ai envie de dire, de l'éducateur, c'est faire front face à la violence, c'est éradiquer la violence. C'est là où on échoue tout le temps. Et un éducateur, il a deux armes, c'est tout, il n'en a pas trois. C'est les savoirs, biogéophysique, sociopolitique, etc., les savoirs établis par les communautés scientifiques, et la problématisation, apprendre à penser, etc. Mais voilà. Donc, en tout cas, pour moi, c'est absolument exclu. Et puis en plus, c'est inefficient, parce que quand on regarde un peu plus près ce qui s'est passé au niveau de la Chine, ou ce qui se passe en ce moment au niveau de la Chine, une première lecture, c'est, bah oui, ils ont une forme d'efficience. De fait, c'est pas faux. Il y a une forme d'efficience si on regarde les choses d'un point de vue purement rationnel, etc. Alors, l'efficience, il faut quand même dire que, à coup d'ouverture de centrales à charbon, de centrales à charbon qui émettent quand même un peu moins de particules fines, etc. Donc, en fait, qui s'optimisent un petit peu, mais qui pour l'instant s'ouvrent. A priori, avec un pic qui va être atteint en 2030, c'est-à-dire en fait quelque chose en termes de consommation de charbon qui va diminuer. Et puis, leur objectif annoncé, 2060, on va dire, de neutralité en termes d'émissions carbone. Ça reste à voir, mais en tout cas, de fait... Par contre, quand la finalité, on va dire, annoncée de tout ça, c'est faire émerger une civilisation écologique. Mais quand on regarde d'un peu plus près ce qui se passe au niveau du Parti communiste chinois... Moi, à aucun moment, j'ai l'impression qu'il prend en charge le devenir de l'humanité sur la Terre. C'est-à-dire, il est vraiment centré sur l'exercice d'une domination sur son peuple, et donc il reste finalement la première finalité. Et donc, un pouvoir fort, je pense que ça ne peut fondamentalement qu'être centré sur lui-même. Donc, je pense qu'il n'y a rien de bon à cet endroit-là. Et l'autre élément, c'est que les moyens qu'on va déployer, ils déterminent la fin. Et utiliser des moyens violents, je pense que ça veut dire une fin violente. À la limite, je préfère encore qu'on échoue plutôt que on mobilise des moyens qui génèrent une fin violente qui est elle aussi un échec, quoi.
Votre livre, c'est 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Question toute simple, en quoi le réchauffement climatique va bousculer nos vies en 2049? Est-ce que vous pouvez décrire quelques effets concrets?
On va dire là, je veux bien nommer une ou deux études scientifiques, simplement, pour ressentir le truc, quoi. Et à nouveau, 2049 n'est pas juste la date, mais la trajectoire. Ouais. La vague caniculaire historique de référence en Europe, c'est 2003. En 2003, il avait fait 42 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy. Et on était à peu près à plus 1 degré de réchauffement global moyen par rapport aux températures pré-industrielles. On rajoute à peu près 2 là-dedans pour regarder avec plus 3 degrés, c'est-à-dire quelque chose comme 2100. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un pic caniculaire, si exactement la même structure de vague caniculaire advient en 2100. Ça donne un pic caniculaire augmenté de 13 degrés, c'est-à-dire 55 degrés à Strasbourg, à Metz, à Nancy. Le record du monde à la surface de la Terre, pour l'instant, c'est 54,4 degrés dans un désert aux États-Unis, à Vallée de la Mort. Donc déjà, la France championne du monde, on peut dire « Ah, c'est déjà ça, quoi !» Bon, entre-temps, le record du monde, il aura été pété aux quatre coins du monde, mais en fait, 55 degrés, c'est quoi? C'est des températures qu'on même pas court dans le désert. Pas parce qu'il fait chaud dans le désert, parce que ça désertifie. C'est des températures qui rendent impropre un territoire à la production agricole. Alors là, on pourrait dire, ouais, le mec que vous avez invité sur Radio Imo, il est un peu chelou, je sais pas quoi, il parle de 2100 comme s'il en revenait, qu'est-ce qu'il en sait, le petit père, quoi. Mais là, on peut faire l'exercice tout simple de regarder rétrospectivement ce que j'évoquais là au début. Qu'est-ce qu'ont donné les études prospectives? Est-ce que les chercheurs se sont plantés ou pas? Ben, de fait, pour l'instant, tout advient un peu plus tôt que ce qu'on pensait. Donc en fait, vous faites ce que vous voulez, mais à titre personnel, j'accorde une confiance élevée dans les études prospectives au nom de l'analyse rétrospective qu'on peut,
donc,
qu'on peut en faire.
Effet concret, extrême chaleur, plus d'agriculture, c'est l'un des effets concrets ou
carrément. Oui. De fait, pas partout, tout le temps, permanence, etc. Mais les ruptures de greniers sont un phénomène vraiment documenté au niveau de la littérature scientifique. Ça veut dire le fait que surgisse au même moment, la probabilité que surgisse au même moment à différents endroits du globe, des températures extrêmes qui entravent la production agricole, autant de blé que de maïs, que de soja, que de riz, etc. Et qui génère, plac, rupture de grenier, une famine en partie globalisée, quoi. Oui, et donc de fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le 21e siècle sur notre trajectoire, le risque ne cesse de s'intensifier.
Bon, dans quelques instants, on va marquer une courte pause musicale, mais juste préalablement, de manière très rapidement, qu'est-ce que l'anthropocène qu'on citait en introduction?
Alors, l'anthropocène, c'est un nouveau mot, voilà, qui a été pondu en l'an 2000, au Mexique, dans un colloque sur l'Holocène. L'Holocène, ce dont on a parlé, et puis dont on mesure l'importance de l'Holocène, parce que c'est le socle qui permet nos sociétés. Et à un moment donné, dans ce colloque, on va dire, de géologues, chercheurs en sciences du système d'air sur l'Holocène, il y a un type qui dit, mais en fait, on n'est plus en Holocène, on est en Anthropocène. Alors, il se trouve que le type en question, il s'appelait Paul Crutzen, et il venait en 95 d'avoir un prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la constitution chimique de l'atmosphère. Et donc, ça te transforme en Michael Jackson en 2-2, un truc comme ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, voilà, la moindre impro, etc., d'un prix Nobel, bon, ça peut marquer l'histoire. Et à partir de là, on va le voir, on dit, tiens, mais c'est intéressant, ton terme Anthropocène, etc. Il rassemble un peu des copains, donc des chercheurs plutôt brillants, qui ont un peu le même profil que lui, c'est-à-dire à la fois chercheur brillant et en même temps qui ont des capacités de communication au grand public, parce qu'il était vraiment expert dans cette dimension-là, l'interface science-société Paul Crutzen. Et à partir de là, il travaille sur le terme anthropocène pour lui donner une consistance scientifique. Et donc, ça signifie une nouvelle époque géologique qui est marquée par la fragilisation des conditions d'habitabilité humaine de la Terre.
Merci beaucoup Nathanaël. On écoute le morceau que vous avez choisi, HK, Rallumeur d'étoiles.
Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé, pour unique salaire, de la traînée de poudre, d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos, Black, on sort les échelles et les chalumeaux, Franco, on grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes, dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore, et encore, et encore.
Complètement à l'ouest sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, de retour en studio avec Nathanaël Vallenhorst qui publie 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, et c'est disponible aux éditions du Seuil. Nathanaël Vallenhorst, il y a beaucoup de littérature sur le fait que la technologie va nous aider à sauver la planète. Je pense aux technologies de capture et de stockage de carbone. Je pense aussi à l'IA qui pourrait optimiser les réseaux électriques, l'agriculture de précision, la gestion de l'eau, les villes smart, avec l'idée que l'efficacité algorithmique électrique compensera la surconsommation. Bref, il y a ces grands récits techno-optimistes qui nous disent « ne vous inquiétez pas, la techno va nous sauver ». Question toute simple, qu'est-ce que vous en pensez?
Donc on a entendu HKL et Saltimbanque, ça, rallumeur d'étoiles. Rallumer les étoiles, c'est absolument essentiel. Enfin, c'est vraiment, à un moment donné, dans le temps présent, permettre de travailler, de construire ensemble un espoir, alors intellectuellement honnête, qui soit à la hauteur des enjeux, qui fasse advenir des ruptures, qui soit réaliste et juste, c'est vital, c'est essentiel. C'est aussi essentiel que d'avoir les yeux en face des trous à partir des articles scientifiques et regarder le réel, quoi. Voilà. Par contre, là, de fait, tout ce que vous venez de citer comme solution, on a plutôt affaire à des fumeurs de moquette. C'est-à-dire que moi, c'est une foi que je ne peux pas avoir, une foi comme ça aveugle dans la technique qui nous sortirait de l'ornière dans laquelle elle nous a mise. Moi, ça matche pas, ça ne prend pas sur moi, j'y crois pas. Effectivement, on vit dans un régime qui est celui de l'innovation. L'innovation permanente, etc. Et mue comme ça, encore mue, j'ai envie de dire, dans le prolongement de la dynamique de la modernité, du progrès, que le progrès technique s'accompagnerait d'un progrès social, etc. On sait que il y a une décorrélation entre le progrès technique et puis le progrès social. C'est-à-dire, en fait, le fait que ça bénéficie à tous depuis maintenant plusieurs décennies, à peu près le choc pétrolier. Enfin, voilà. Et ça, c'est assez documenté d'un point de vue historique, sociologique, bref. Donc, moi, cette course en avant de la technique, du progrès, etc., j'y crois pas du tout. Ce qui est absolument essentiel, c'est qu'on parvienne à faire revenir sur le devant de la scène l'impératif d'atténuer le réchauffement climatique. Et donc, de passer d'une dynamique d'innovation à son pendant, si on prenait un couple notionnel, oppositionnel, qui est la limitation. Alors, là, de fait, ça fait grincer. Là, de fait, on se dit, waouh, limitation. Alors, attends voir, qu'est-ce qu'il va vouloir me dire? Mais, effectivement, il faut arriver à désirer cet indésirable qu'est la limitation, faire avec moins, voilà.
Et
ce qui me fait dire ça, c'est pas une socialisation politique, c'est une socialisation autistique dans la revue, dans la littérature scientifique, où à un moment donné, bah oui, de fait, la croissance, sorry, mais ça ne matche pas avec la réalité, la matérialité biogéophysique du monde. J'entends bien que dès qu'on dit ça, on a tout un tas de gens qui disent « Ah non, mais attends, hors de question, moi je renonce pas, les gens ne sont pas prêts à renoncer, leur niveau de vie et leur machin, leur truc, est-ce que toi tu serais prêt à renoncer à machin, un truc ?» Et donc, que à cet endroit-là, ça fait mal, ça grince, ça machin, mais tu prends le truc dans tous les sens, d'un point de vue matériel au sens premier de la matière biogéophysique, ça ne passe pas, c'est pas plus compliqué que ça, faut arriver à faire moins avec moins et avec beaucoup moins, de telle sorte que l'action sociétale des humains est une force tellurique qui est pour effet de changer la trajectoire du système Terre.
Justement, comment concrètement on fait? Vous parlez évidemment de la montée des eaux, de tempêtes, vous montrez tous les risques dont certains que nous connaissons déjà. Quelles sont les pistes, même infimes, concrètes, pour freiner ces phénomènes s'il est encore temps?
Mais il y a une piste, elle est assez simple, que tu sois milliardaire ou que tu sois smicard, t'as le droit de consommer un. Et on se met d'accord sur c'est quoi ce 1.
Donc c'est la limitation que vous préconisez.
Moi, désolé, j'ai rien d'autre en stock. Je veux dire, sinon, je serais à la télé en train de constituer un gouvernement ou de voter un budget ou bref.
Il est voté.
Fondamentalement, j'ai pas grand chose d'autre en stock que ça. Mais pourquoi ça? C'est pas pour le plaisir de vivre avec moins, avec machin. Moi, je suis enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur, c'est un mec qui psychiquement est un ultra-libéral. C'est un mec qui dit, mais vous me foutez la paix, je sais ce que j'ai à faire et je fais mon boulot. Et donc du coup, à peu près tous les collègues, ils sont comme ça, même s'ils sont socialisés autrement, d'un point de vue psychique, ils veulent juste qu'on leur foute la paix, ils savent ce qu'ils ont à faire, bref. Donc moi, qu'on me limite, c'est pas mon kiff, voilà. Et alors pourquoi ce 1 et dire, ben c'est parce qu'en fait, le paquet de ressources, il est limité. Donc dès que tu tapes dedans, t'empêches un autre de taper dedans. Dès que tu tapes dedans, si je te fais la version cash, tu bouffes un gosse. Et la deuxième élément de ce paquet de ressources, c'est que comme il y a une composante systémique, dès que tu tapes dedans, ça fragilise l'avenir.
Donc
ça entrave le futur.
Dans les ressources, c'est ça?
Dans les ressources, dans le paquet de ressources. Et donc, il y a un endroit, il revient, c'est une sagesse populaire, collective, à avoir ensemble, de se dire, limitons l'accès de telle sorte qu'on puisse vivre dignement ensemble, mais sans se gaver et sans entraver le futur.
On voit que vous êtes passionné. Je regarde le temps qui passe très vite. Encore deux courtes questions, Nathanaël Wallenhorst. On s'aperçoit, et vous portez très bien ce message, que le récit climatique est souvent atomisé entre discours scientifiques, des récits politiques, voire parfois des psychologies un peu de bazar, hein, il faut le dire. On peut avoir le sentiment que ça part un peu dans tous les sens et qu'il manque une sorte de cohérence. Comment, au-delà de votre livre, évidemment, comment créer une narration commune capable d'entraîner un engagement réel de tout le monde ?
Pour moi, le truc le plus important, c'est de partir des savoirs. Enfin, moi, je sais pas faire autrement comme enseignant-chercheur. De pas partir de la nécessité de construire un récit, un machin, un truc. Il y a eu un reportage sur France 2, France, il était une fois demain, qui est passé là, il y a deux semaines, où à un moment donné, les réalisateurs, donc ils veulent nous donner envie de nous mobiliser dans une action collective pour demain, vers demain, et ils s'émancipent complètement des savoirs biogéophysiques. Ça donne quelque chose qui est un récit, mais un récit mensonger, erroné. Faux. Et donc, la première chose, c'est partir de là. Et puis après, oui, de fait, il y a une forme de désir à trouver et à construire. Faut pas se mentir non plus. On est entre adultes, on est grandes personnes. C'est quand même un peu à la Churchill, hein, du sang, de la sueur et des larmes. Hein. C'est-à-dire que, de fait, faire avec moins et faire avec la transformation des conditions biogéophysiques qu'on est en train de générer, c'est pas marrant. Voilà. Donc, bref, à cet endroit-là, en termes de, pour moi, un récit puissant, c'est un récit qui a les yeux en face des trous et qui procède du réel, même si ça fait mal.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui trouvent que vous noircissez éventuellement trop le tableau? Et puis, vous mentionnez également dans votre livre que vous écrivez même, je vais y arriver, que l'amour, l'amitié et la confiance sont aujourd'hui menacés. Si vous deviez laisser à nos auditeurs une image ou une idée qui reste au terme de cette émission, quel serait ce message central ?
Alors, la première chose, moi, j'ai pas eu l'occasion d'entendre des collègues enseignants-chercheurs qui me disent que je noircis le tableau. Donc ça, c'est, donc si jamais il y en a, bah, vraiment, ça me fera plaisir d'échanger avec eux, etc. Des collègues enseignants-chercheurs qui travaillent dans le champ des sciences du système Terre, c'est-à-dire qui maîtrisent ces sujets-là. Ça, j'ai jamais rencontré ça, donc j'ai absolument pas l'impression de noircir le tableau. Et puis...
Le dernier message, ouais, en lien avec... C'est-à-dire que... L'amour, l'amitié, la confiance qui seraient menacées.
Oui, de fait, à un moment donné, si t'as plus à bouffer le partage, ça le complexifie. Non pas qu'il soit impossible, mais de fait, ça complexifie. En tout cas, des modes d'institutionnalisation de la solidarité entre nous. Fondamentalement, la question c'est est-ce qu'on peut réussir, est-ce qu'on va réussir, est-ce que, en fait, on le doit. Au nom de la promesse qu'on a faite à nos enfants en les balançant dans l'existence, que la vie vaut d'être vécue, qu'elle peut être bonne et qu'elle peut être agréable. Et ça, c'est l'engagement, c'est la promesse qu'on a faite à nos enfants, on doit la tenir.
Merci beaucoup, Nathanaël Wallenhorst, pour ces paroles, d'être venu au micro de Complètement à l'Ouest. Je rappelle que vous avez écrit 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. C'est paru aux éditions du Seuil. C'est un livre exigeant, disons-le, passionnant, tout à fait réaliste. Bref, en tout cas, moi qui l'ai lu avec passion et gourmandise, indispensable vraiment pour comprendre et surtout avoir une vue précise de ce qui pourrait nous attendre dans moins de 25 ans, en 2049, lorsque le climat, écrivez-vous, ce sera encore dégradé. Fidèle au poste, Complètement à l'Ouest reviendra le mois prochain pour une 66e émission au cours de laquelle nous continuerons à parler nature avec un très grand monsieur de la biodiversité, le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et spécialiste de la biodiversité. Il s'agit de Marc-André Sellos qui était déjà venu à cette émission et là il viendra nous présenter son dernier ouvrage de la biodiversité comme un humanisme paru également aux éditions du Seuil. Voilà, en cette toute fin d'émission, il me reste que, selon la tradition, à remercier l'ensemble de l'équipe technique, Jason, Baptiste et tous les autres, qui avec professionnalisme, efficacité et surtout gentillesse, m'assistaient depuis toutes ces années, et cela en amont et pendant l'émission. Voilà, tout est dit à présent, et selon la formule, il ne reste plus qu'à garder le cap, le cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.